Radio Okapi.
Belinda Bosuma à la présentation. À la une, 5 miliciens tués, d'autres capturés, des populations en fuite. Bilan provisoire des attaques des Mai Mai associées aux ADF depuis vendredi soir dans plusieurs villages de Mambasa en Ituri. Des voix s'élèvent pour interpeller les autorités du pays. Lancement hier à Kananga par le chef de l'État des travaux de réhabilitation et modernisation de la route Kananga-Kalambambouji au Kasaï central. Prévue pour 24 mois, ces travaux seront exécutés par une entreprise israélienne sélectionnée par le bureau central de coordination maître d'ouvrage. Et puis, l'invité de ce midi, Jean-Albert Kumwimba, directeur de la Fondation internationale de secours et d'amitié. Il nous parle notamment des difficultés que rencontrent plusieurs enfants orphelins et vulnérables dans des écoles où ils sont scolarisés dans la ville de Goma. Madame, Messieurs, bonjour. Ce journal part de l'Ituri. Des attaques des miliciens Mai Mai associés aux ADF sont signalées depuis vendredi soir dans plusieurs villages, notamment Tetouri, Mamomé et à la carrière minière Paradis 1 dans le territoire de Mambasa. Le bilan provisoire est de 5 morts côté Mai Mai et d'autres capturés, déclarent des sources concordantes. De nombreuses personnes affluent vers la périphérie de Mambasa et le trafic sur la route nationale numéro 44 est perturbé suite à l'activisme des ADF. Des voix s'élèvent pour demander au gouvernement de stopper les violences de ces groupes armés qui s'intensifient dans la région. Le récit de Isaac Remoyope.
Selon la nouvelle société civile de Mambasa, les Mai Mai associés aux ADF ont lancé 3 attaques simultanées dans la nuit de vendredi à samedi. À Tetouri, ils ont lancé l'assaut contre une position des FARDC qui les aurait poussés après quelques heures de combat. Des Mai Mai ont été tués, d'autres ont fui. Un autre groupe de ces rebelles a attaqué la même nuit la carrière minière des Paradis 1. L'intervention de l'armée a permis d'étouffer la menace. 3 miliciens ont été neutralisés et leurs armes récupérées et 4 autres capturées. Au village Mamomé également, on signale des combats entre les deux parties sans donner les bilans. Selon des sources concordantes, l'activisme de ces groupes armés depuis environ un mois a entraîné les déplacements massifs de la population chef-lieu du territoire de Mambasa et dans la province voisine du Nord Kivu. De nombreux transporteurs qui empruntaient les tronçons Beni-Biakato, Mambasa, Bunia ont suspendu le trafic en attendant l'amélioration de la situation sécuritaire. Les structures de la société civile recommandent au gouvernement notamment l'augmentation de l'effectif des militaires et le lancement des opérations militaires de grande envergure. De leur côté, les autorités territoriales affirment que les opérations sont en cours dans la région. Bunia, Isaac Remoyope, Radio Okapi.
Par ailleurs, dans le territoire de Beni, au Nord Kivu, après la dernière attaque de la commune rurale de Boulongo, les acteurs de la société civile s'interrogent sur la persistance de l'activisme des groupes armés dans cette région surmilitarisée. De son côté, l'armée appelle ses acteurs à œuvrer aux côtés des services de renseignement afin de mettre fin aux menaces sécuritaires que subit cette zone, dont la dernière attaque est survenue le mercredi dernier avec mort d'homme. Le point avec Pierrot et la Menji.
La société civile de Boulongo qui dit ne pas comprendre le pourquoi de la recrudescence de l'insécurité dans cette région pourtant surmilitarisée demande à l'armée de mettre en place des mécanismes conséquents pour sécuriser la population. L'armée qui dit déjà se pencher sur cette situation appelle les uns et les autres à collaborer dans le cadre du renseignement. Le capitaine Anthony Mwalushai, porte-parole des opérations militaires Sokola 1.
Nous avons non seulement renforcé les effectifs à Boulongo et ses environs, mais aussi nous travaillons en collaboration avec les jeunes qui maîtrisent mieux le milieu et qui ont des renseignements sur l'ennemi dans son ensemble. C'est pourquoi s'il y a une demande que moi je peux faire, c'est que les membres de la société civile qui ont des renseignements ou bien d'autres orientations puissent les faire auprès des autorités militaires qui sont en opération à Boulongo au lieu de le faire dans les médias. Parce que c'est une question purement sécuritaire et tout ne peut pas être étalé sur la place publique.
Les acteurs de la société civile demandent également à l'armée de renforcer la sécurité dans la région de Mabasimba, Mayele et Toya, car la population n'y accède pas aux champs, étant donné que la présence des ADF est toujours signalée. Rappelons que 5 civils ont été tués et 4 enfants kidnappés lors de l'attaque de la commune rurale de Boulongo le mercredi dernier par les ADF.
Pendant ce temps, à Bandunduville, le gouvernement provincial du Kwilu a apporté hier son assistance aux déplacés de la province de Maïndombe qui ont fui les violences dues au conflit Teke et Aka à Kwamout. Cette assistance est composée des vivres et non-vivres ainsi que d'une somme d'argent. C'est le vice-gouverneur Félicien Kiwai qui a remis ce don au nom du gouverneur Willy Tundala en mission. Il était accompagné de quelques membres du gouvernement du Kwilu, du maire de Bandunduville et quelques autorités sanitaires. La cérémonie a eu lieu à la mairie de Bandundu en présence d'une foule nombreuse. Irène Boma.
Cette assistance humanitaire du gouvernement provincial du Kwilu aux déplacés de Kwamout samedi à Bandundu est essentiellement constituée de 2 sacs de manioc, de 9 sacs de maïs, 20 sacs de 25 kg de riz, 3 bidons de 25 litres d'huile végétale, 10 sacs de braise, 10 sacs de sel, un ballon de vêtements et une enveloppe d'argent. Le vice-gouverneur Félicien Kiwai explique le sens de cette dotation.
Vu la conséquence du conflit de Teke et Yaka, dont nous sommes victimes d'accueillir plus de déplacés qui sont dans la ville de Bandundu et il y en a qui sont très nombreux encore à Fatundu. Alors, par solidarité, nous avons voulu assister d'abord ceux qui sont ici et nous lançons aussi l'appel au gouvernement central de pouvoir emboîter les pas.
Satisfaits, les bénéficiaires ont exprimé leur gratitude. Nous remercions la population qui nous aide. Nous remercions aussi les autorités qui nous ont assistés. À cette occasion, la zone de santé de Bandundu a également remis un lot important de moustiquaires imprégnés d'insecticides à ses déplacés pour les protéger contre les paludismes. Notez que pour le moment, nombre de ces déplacés à Bandundu sont installés aux différents dépôts du marché central de Malebo. Irène Boma, Bandunduville, Radio Okapi.
Contribuer à une compréhension commune des rôles et responsabilités des chefs coutumiers dans la promotion de la paix, la sécurité et le développement de la province du Sud Kivu, ainsi qu'au rétablissement des relations de confiance et de collaboration entre la MONUSCO et les communautés locales, c'est ce qui justifie la tenue d'un atelier qui se tient depuis hier et se clôture aujourd'hui à Bukavu, un atelier organisé par l'Alliance nationale des autorités traditionnelles du Congo, comité provincial du Sud Kivu et appuyé par la MONUSCO. Rachel Kiesse pour le reportage.
Les chefs de chefferie, les représentants de groupements coutumiers de secteur, mais aussi quelques représentants du gouvernement provincial du Sud Kivu prennent part à cet atelier afin de réfléchir et de comprendre le rôle des chefs coutumiers dans la promotion de la paix. Moami Kabaré Désiré, président de l'Alliance nationale des autorités traditionnelles du Congo, Sud Kivu.
Nous sommes dit qu'il est temps pour nous, chefs coutumiers, de voir si nous remplissons pleinement notre rôle, qui est celui de participer, épauler l'État dans son rôle régalien qui est celui du maintien de la paix, de l'ordre public et de la protection des populations civiles ainsi que de leurs biens. Au regard des expériences tirées des uns et des autres, nous allons peut-être arriver à trouver un moyen de restaurer la confiance, si pas la collaboration entre la MONUSCO et les communautés locales que nous représentons, en attendant que le gouvernement nous donne le nouveau calendrier du retrait ordonné, progressif de la MONUSCO de notre pays.
Signalons qu'au terme de cette activité, les chefs coutumiers établiront et adopteront un plan d'action devant leur servir de feuille de route pour la promotion de la paix, la sécurité et les développements dans la province du Sud Kivu. Bukavu, Rachel Kissé, Radio Okapi.
Je vous le disais en titre, c'est parti pour la réhabilitation et modernisation de la route Kananga-Kalamba-Mbuji. Les travaux ont été lancés par le chef de l'État arrivé hier à Kananga justement. Le Premier ministre et d'autres membres du gouvernement ont assisté à cette cérémonie. C'est une entreprise israélienne dénommée Toa Investissement qui a été sélectionnée par le Bureau central de coordination BCECO, maître d'ouvrage, pour exécuter ces travaux. François Kadima, reportage.
Pris en charge par les trésors publics, le projet s'exécutera en deux phases. En croire le ministre de ZTPR, la première consistera en la réhabilitation de la route, des divers ouvrages, de deux péages modernes, des ponts bascules pour relancer les trafics sur une durée de 24 mois. Le bitumage sera en deuxième phase, a expliqué Alexis Guissaro, qui revient sur l'importance de cette route.
Cette connectivité routière profitera de toute évidence à plusieurs agglomérations se trouvant dans la zone du projet, et plus particulièrement celle située sur la route nationale 39, dont Kazumba, Chibala et Luisa. Que cette réhabilitation facilitera celle de la route nationale numéro 39, ce qui rendra à nouveau possible la connexion routière de la province du Kasaï central à celle du Lualaba en passant par Kapanga et Dilolo.
C'est Towa Investissement qui a été sélectionné par le BCECO pour exécuter ce travaux. Son directeur général a rassuré de la détermination de son entreprise pour remettre en état cette route d'espoir pour le centre kassaïen.
La société Towa Investment s'engage à poursuivre les travaux jusqu'à leur fin afin d'offrir à la population un ouvrage de qualité répondant à ses besoins.
Signalons que le chef de l'État a également lancé les travaux de la voirie urbaine qui seront exécutés par l'entreprise Safrimax. De Kananga, François Kadima, Radio Kapi.
Affaire émolument des députés nationaux, le parti politique Alliance pour la Nouvelle Classe Libérale appelle l'Assemblée nationale à budgétiser les invisibles afin de taire toute polémique autour des salaires des élus nationaux. Jules Bavon Mwamba, président de ce parti, membre des forces politiques alliées à l'UDPS, l'a déclaré hier au cours d'une conférence de presse à Kinshasa. Jules Bavon Mwamba est au micro de Paul Matendo Mayamba.
Nous nous exaltons l'Assemblée nationale aujourd'hui de pouvoir prendre les variables, notamment l'argent pour les recherches, les invisibles, et les remettre sur des rubriques qui sont statiques. Et nous disons aujourd'hui que la République démocratique du Congo, nous devons tous nous battre pour améliorer le PIB, qui est la richesse nationale de la République démocratique du Congo. Enfin, aussi demain, d'améliorer le social des autres couches de la population. Et nous pensons que nous devons plus canaliser les ressources de la République vers les trésors publics afin d'améliorer notre trésorerie nationale, et on va répartir équitablement les richesses disponibles de la République.
Province du Maniema, la société civile doit collaborer avec la société politique, c'est-à-dire les dirigeants du pays, pour obtenir des approches qui permettent aux citoyens congolais de s'élever. Cet appel est du professeur Casimir Ngumbi de l'université de Kisangani en séjour au Maniema. C'est à l'issue d'une conférence qu'il a animée ce week-end à Kindu. Cette conférence portait sur l'approche populaire de la résistance en RDC contre son agression. On écoute le professeur Casimir Ngumbi au micro de Florence Kiza.
C'est la sensibilisation, mais en même temps aussi la socialisation des étudiants, mais aussi de la société civile, pour que chacun d'eux comprenne, par rapport aux enjeux actuels, que les Congolais doivent être unis. Mais en même temps, la société civile doit travailler de concert avec la société politique, c'est-à-dire les dirigeants, pour obtenir quand même des approches qui permettent aux citoyens congolais de se mettre debout, de s'élever, et en même temps de leur demander, certes, de résister par rapport à ce qui vient de l'extérieur, mais en même temps résister par rapport à la médiocrité des acteurs politiques qui ne veulent pas comprendre du tout que pour le temps actuel, il faut qu'ils se mettent ensemble. Donc résister par rapport à toutes les difficultés, toutes les déviations observées au niveau de la gestion du pays, par rapport à toutes ces réalités, mais en même temps résister par rapport aux questions qui se présentent à l'Est, notamment l'agression dont nous sommes l'objet, mais aussi demander à ceux qui pratiquement dévient de temps en temps par rapport à la discrimination. Nous avons demandé vraiment de le faire tout en respectant la loi et pour ne pas être en dehors de ce que nous devions faire en tant que Congolais.
Direction la province du Bazouélé. Les candidats magistrats de cette entité plaident pour leur alignement au site de Kisangani afin d'y présenter le test national des magistrats plutôt qu'à Kinshasa où ils seraient retenus. Ceci à cause des difficultés de transport. Ce cri d'alarme est intervenu au lendemain de la publication par le Conseil supérieur de la magistrature des différents sites devant accueillir les candidats pour ces épreuves prévues en octobre prochain. Le point avec Jacques Moukonkolé.
Ces candidats magistrats du Bas-Oélé sont au nombre de 30, dont 8 femmes. Ils disent avoir expédié individuellement leur dossier à Kinshasa, puisque le premier président de la cour d'appel de Bouta n'avait pas voulu s'en charger. Selon eux, ceci serait à la base de la non-retenue des candidats pour le compte du Bas-Oélé. Kinshasa étant difficilement accessible pour eux, ils souhaitent leur transfert à Kisangani. L'un d'eux, Landry Mvula, explique.
C'est pour concourir à la représentativité provinciale d'une part et réduire la distance qui sépare Kinshasa avec la province du Bas-Oélé d'autre part.
Dans cette démarche, ils sont soutenus par la société civile Force Vive du milieu, comme en témoigne Jean-Marie Epekana, son président.
Notre cri d'alarme va tout droit au niveau du Conseil supérieur des magistrats, afin que nos candidats qui sont sélectionnés au niveau de Kinshasa puissent être ramenés au niveau du site de la Tchopo, afin que nos candidats puissent passer pour les comptes du Bazuele.
Le premier président de la Cour d'appel de Bouta dit n'avoir pas été mandaté pour la collection des dossiers des candidats magistrats à expédier à Kinshasa. Toutefois, Edmond Soko les exhorte à adresser leurs doléances directement au Conseil supérieur de la magistrature. Jacques Mukonkole, Kisangani, Radio Okapi.
Actualité internationale.
L'Organisation mondiale de la santé, OMS, exhorte les pays africains à accélérer la mise en œuvre d'une nouvelle feuille de route lancée jeudi afin d'enrayer les épidémies de méningite bactérienne sur le continent d'ici 2030. Cette maladie mortelle a fait des ravages en Afrique subsaharienne depuis le lancement d'une campagne de vaccination contre la méningite du groupe A en décembre 2010. Les épidémies ont été largement maîtrisées sur le continent. Cependant, une résurgence de la méningite s'est produite après que COVID-19 a frappé le continent et submergé les systèmes de santé nationaux. Et puis, trois jours après son décès dans son château écossais de Balmoral, la reine Elisabeth II a entamé ce dimanche son dernier voyage. Le cercueil est transporté à travers l'Écosse. Mardi soir, la dépouille de la reine sera transportée par avion à Londres.
L'invité.
Nous recevons le directeur de la Fondation internationale de secours et d'amitié, Jean-Albert Kumwimba, parle des difficultés auxquelles font face un millier d'enfants orphelins et vulnérables dans des écoles où ils sont scolarisés au sein des écoles primaires de la ville de Goma. En ce début de l'année scolaire, son organisation a remis vendredi un don en kit scolaire à une centaine de ses enfants dans quelques écoles de Goma. Jean-Albert Kumwimba Kabongo s'entretient avec Mathieu Ilunga.
Monsieur Jean-Albert Kumwimba Kabongo, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes responsable de la Fondation internationale de secours et d'amitié, FISA IRFF. Pourquoi vous avez pensé aux enfants orphelins au moment où plusieurs familles sont en déplacement de guerre et d'autres enfants jusque-là victimes des éruptions de Nyiragongo?
Je disais autrefois que je travaille sur un principe de temps et de circonstances. Il y a bien sûr beaucoup d'enfants de sinistrés, de déplacés, de guerres et de volcans de Nyiragongo ainsi de suite à qui je pouvais penser. Bien sûr, j'y ai déjà pensé parce que l'année passée, au mois de mai, nous avons assisté ici. Ici, plus de 150 familles de victimes sinistrées de volcans de Nyiragongo. Nous avons acheminé jusqu'à Rutshuru, où notre organisation FISA IRFF International les a supportés pendant plus d'une semaine. Vers la fin de l'année, je parle du 1er janvier de cette année, nous avons assisté les orphelins et les veuves. Ici même, vous avez sanctionné cette journée à l'église Macédonia. Et naguère, j'ai entendu sur les réseaux sociaux un enfant crier. Tous les enfants pendant cette période des rentrées scolaires sont derrière leurs parents. Mais nous, en tant qu'orphelins, nous allons pleurer chez qui pour avoir les cahiers, les bics, l'uniforme pour rentrer à l'école. Voilà la motivation de ce que je vais faire aujourd'hui.
Alors, en quoi consiste cette assistance que vous distribuez à ces enfants orphelins?
L'assistance à ces enfants orphelins consiste à leur donner l'uniforme, les cahiers, les bics, crayons, gommes, lattes et les sacs scolaires. Pour quelques-uns, si ça sera possible. Bref, les kits scolaires.
Cette disposition, c'est uniquement pour quelques enfants orphelins enregistrés d'avance.
C'est pour tout réseau confondu. Nous n'avons pas de particularité. Nous avons été sur terrain, dans les avenues, dans les rues avec les chefs de quartier pour nous montrer les familles, là où nous pouvons trouver les orphelins. Et c'est ce que nous avons fait. Nous ne connaissons pas ces enfants, nous ne connaissons pas ces familles. C'est un travail qui a été bien organisé avec les chefs de quartier.
Combien d'enfants vont bénéficier cette aide en séjour?
De toutes les façons, nous avons un programme à long terme. Comme les moyens que nous disposons se présentent comme une goutte dans l'eau, pour les 1200 enfants que nous pensons assister, nous voulons prendre une fiche que 120 pour cette première étape.
Alors, quel sera le sort des autres enfants qui vont rester?
Le sort des autres enfants qui vont rester, nous y allons mollo mollo, étape par étape. Plus nous travaillons, plus les inspirations viennent et plus d'autres personnes nous viendront en aide. C'est ainsi que nous allons continuer, soit chaque semaine, soit chaque trimestre, ainsi de suite, jusqu'à ce que nous allons atteindre notre objectif.
Qu'est-ce que vous visez en donnant cette assistance à ces enfants orphelins scolarisés?
En donnant cette assistance à ces enfants scolarisés, d'abord, nous visons le futur de la jeunesse, une jeunesse responsable. Pas seulement nous nous limitons à leur donner des dons, mais nous pensons aussi à leur éducation de base. Nous voulons leur inculquer la notion d'abord de la moralité, de l'éthique, de savoir vivre, bref, l'éducation de caractère. Et surtout pour ceux-là déjà qui avancent vers l'âge de puberté, nous voulons leur inculquer la notion d'abstinence sexuelle avant tout comme après le mariage, sans oublier la notion de paix et du patriotisme.
Pouvons-nous avoir une idée sur les écoles qui hébergent les enfants bénéficiaires de ces dons?
Nous allons commencer dans ce premier lot avec l'EP Sayuni, avec l'EP Nourou, le complexe scolaire Mama Béatrice, EP Ndosho, EP Stella, EP Sayuni, EP Chipuko, EP Sainte Famille, EP Maoua, EP Karisimbi.
Quelles sont les étapes qui cadre avec cette disposition?
Nous avons commencé avec la réunion des parents qui hébergent les enfants orphelins. Après cette étape, nous sommes allés voir les enfants, parler avec eux et nous dire l'adresse de leurs écoles où nous allons les visiter. Parce que les kits, nous n'allons pas les distribuer à la maison, c'est à l'école, à chaque école. Aujourd'hui, nous allons suivre encore de près l'éducation de ces enfants, parler encore à leur maman pour leur encadrement. Et nous ferons le suivi surtout sur leur éducation. C'est là qu'ils vont mieux se comporter et nous allons continuer à le faire presque chaque année.
Je vous remercie.
C'est à moi de vous remercier.
Le directeur de la Fondation internationale de secours et d'amitié répondait aux questions de Mathieu Ilunga. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi.